Religion du Monde, Geneviève Delru.
Dio ci preservi dall'avidità dei nuovi colonialismi.
Que Dieu nous préserve de l'avidité des nouveaux colonialismes. Le feu allumé par des intérêts qui détruisent, comme celui qui a récemment dévasté l'Amazonie, n'est pas celui de l'Évangile.
Non è quello del Vangelo.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'Amazonie brûle, la terre, notre maison commune est malade, l'Église sans souci, c'est l'enjeu et le thème du synode pour l'Amazonie qui s'est ouvert dimanche dernier au Vatican avec une grande messe et l'homélie du pape François. Un synode qui va donc durer encore 2 semaines. Un synode qui rassemble de nombreux évêques d'Amérique latine, mais aussi des voix de la région et des experts. Au Vatican, ça n'est pas un sommet sur le climat et l'environnement qui rassemble près de 300 personnes. Il s'agit d'aborder le sujet sous l'angle de l'écologie intégrale, cela dans le sillage de Laudato Si, l'encyclique du pape François, c'est-à-dire dans sa dimension spirituelle, environnementale et humaine. Pour mieux comprendre l'esprit et l'enjeu de ce synode, je vous propose d'entendre quelques mots encore de l'homélie du pape François, suivi d'un autre extrait de la présentation du synode à la presse du cardinal brésilien Claudio Humes, qui est le rapporteur général de ce synode. Le cardinal Claudio Humes est l'archevêque émérite de São Paulo et il est le président du REPAM, le réseau ecclésial panamazonien. Le cardinal Humes est un proche du pape François, c'est lui qui avait glissé à son oreille lors de son élection « N'oublie pas les pauvres ».
Le feu allumé par des intérêts qui détruisent, comme celui qui a récemment dévasté l'Amazonie, n'est pas celui de l'Évangile. Le feu de Dieu est une chaleur qui attire et rassemble dans l'unité. Le feu dévastateur, au contraire, embrase quand on ne veut défendre que des idées personnelles, constituer son propre groupe, brûler les diversités pour uniformiser tous et tout.
Mas a Laudato Si alerta, dizendo: hoje não podemos deixar de reconhecer.
Le contexte général du synode est la grave crise environnementale que rappelle l'encyclique Laudato Si. Une crise climatique, une crise écologique, une crise sociale avec une pauvreté et une misère criante qui touche une grande partie de la planète et en Amazonie, spécialement les indigènes, les riverains, les petits agriculteurs et ceux qui vivent à la périphérie de villes amazoniennes. Comme le rappelle Laudato Si, il n'y a pas deux crises séparées, une environnementale et une sociale, mais une seule et même crise complexe. Il faut aborder cette question de façon globale pour combattre la pauvreté, redonner aux exclus une dignité et dans le même temps prendre soin de la nature.
Autre grande figure de l'épiscopat latino-américain et du synode, le cardinal Pedro Barreto, archevêque de Huancayo, une ville des Andes péruviennes située à 3250 mètres d'altitude. Son diocèse est une région minière où la contamination de l'air, de la terre et de l'eau a eu un lourd impact sur la santé des habitants. Le taux de cancer y est particulièrement élevé. Sur les enjeux de ce synode, le cardinal jésuite péruvien rappelle la figure de Saint François d'Assise qui a inspiré l'encyclique du pape François, Laudato Si, loué sois-tu, un cantique du petit pauvre d'Assise.
San Francisco de Assis es la imagen de un hombre rico.
Saint François d'Assise incarne l'image d'un homme riche qui avait devant lui l'avenir d'un homme du monde et qui s'est converti à l'écologie. C'est l'homme qui incarne un changement de mentalité, une conversion écologique. Il a vécu ce que le pape nomme écologie intégrale.
Le message est très clair. Hay que amazonizar la iglesia. Hay que laudatosificar la sociedad.
Le message est clair, il faut amazoniser l'Église, laudatiser. Nous n'avons qu'une terre, nous n'avons pas d'autres maisons communes.
La urgencia es que el cambio climático.
Le changement climatique est la conséquence de l'irresponsabilité des hommes qui ont maltraité la terre. Il est urgent de changer.
Tenemos la urgencia de cambiar.
Présent aussi à l'ouverture de ce synode au Vatican, l'archevêque de Kinshasa, le tout nouveau cardinal Fridolin Ambongo, la veille de l'ouverture du synode sur l'Amazonie, il a été créé cardinal par le pape François. L'Afrique se sent également très concernée par ce synode, nous a-t-il dit.
Je crois que le problème qui se pose à l'Amazonie, c'est le même problème qui se pose dans la forêt équatoriale. Et c'est pourquoi ce synode sur l'Amazonie, en fait, on parle de l'Amazonie, mais indirectement, on parle aussi de la forêt équatoriale. Donc, le problème de feu de forêt, comme on a eu dernièrement, mais nous sommes confrontés à ça chaque année. Et je crois que ce synode va ouvrir aussi les yeux de la communauté internationale sur la thématique forêt équatoriale.
J'ai parfois l'habitude de dire que les Français et les Européens en général n'échappent pas au Brésil dès leur petit déjeuner. S'ils prennent du café, il a de bonnes chances qu'ils soient brésiliens. S'ils prennent du lait, probablement les vaches ont été nourries au soja brésilien. S'ils boivent du jus d'orange, les trois quarts du jus d'orange mondial viennent du Brésil. Donc de toute façon, on est branché sur le Brésil, qu'on le veuille ou non. Et donc c'est parfois nos habitudes de consommation qui sont en cause. Le gros du défrichement de l'Amazonie, c'est pour faire de l'élevage bovin. Donc peut-être que par ce côté un peu matériel, un peu mesquin, on pourrait réfléchir à notre responsabilité dans l'Amazonie.
Le Centre culturel Saint-Louis des Français à Rome avait organisé, avant l'ouverture du synode, une soirée spéciale sur l'Amazonie. Invité, le géographe Hervé Thierry, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur à l'Université de São Paulo. C'est un grand spécialiste de l'Amazonie.
L'Amazonie, c'est très grand, c'est une réflexion de géographe. Et je pense qu'en réalité, les affrontements qu'on voit sur ce dont on peut faire de l'Amazonie pourraient être minimisés si on prenait conscience qu'il y a de la place pour tout. Pour la préservation, pour les petits paysans, pour la grande agriculture, pour toutes sortes de choses, à condition qu'on arrive à réfléchir et à s'écouter. Et je pense que ce qui a été dit sur le synode, c'est-à-dire un bout de chemin ensemble, est une chose qui permettrait de réfléchir à l'avenir. Et l'Amazonie, c'est ce point particulier qu'elle intéresse la planète entière. Quand l'Amazonie brûle, le monde entier s'en inquiète. Et donc si on peut utiliser ce côté un peu fascinant de l'Amazonie pour le meilleur et pour le pire, de façon à réfléchir à l'ensemble des questions planétaires, tant mieux.
De votre point de vue, à quoi ça sert que le Vatican s'interroge sur la réalité amazonienne aujourd'hui, outre les questions ecclésiastiques ?
Alors c'est déjà intéressant parce que pendant longtemps, les missionnaires catholiques allaient là pour prêcher la bonne parole, évangéliser, et parfois de façon brutale, et porter sur eux des germes qui ont tué la moitié des Indiens. Donc il faut le dire à un moment quelconque. Mais justement, le fait qu'ils s'interrogent, qu'ils réfléchissent, qu'ils prennent ça sous l'angle du développement écologique global est une bonne nouvelle. Ça attirera l'attention sur l'Amazonie, mais aussi sur nos modes de vie.
Est-ce que l'arrivée de Jair Bolsonaro a aggravé la situation, selon vous, en Amazonie ?
Oui, parce qu'il a encouragé. Il a toutes les restrictions qui étaient mises en place lentement, précautionneusement depuis des années. Il a en gros dit, allez-y les gars, brûlez tout ce que vous voulez, pillez tout ce que vous voulez.
Le géographe Hervé Thierry, lors d'une rencontre avec la presse au Centre culturel Saint-Louis des Français. Monseigneur Emmanuel Lafond, évêque de Cayenne, qui fut longtemps curé en Afrique du Sud, est arrivé en Guyane française il y a 15 ans, où il a noué des relations très fortes avec les Amérindiens de Guyane. Nous lui avons demandé pourquoi l'Église avait décidé de se pencher particulièrement sur l'Amazonie.
Ça n'est pas surprenant, parce que l'Évangile est d'abord une bonne nouvelle pour ceux qui en ont le plus besoin. Et donc les peuples qui sont à la périphérie, ou dont nous sommes à la périphérie d'ailleurs, sont parmi ceux vers lesquels nous devrions nous intéresser le plus. Deuxièmement, l'Amazonie est un des lieux de la Terre où se trouve une richesse étonnante. 20% de l'eau douce est en Amazonie. Et l'eau sera un des grands défis du XXIe siècle, et une des grandes causes de guerre du XXIe siècle. La forêt est une source naturelle de bien-être. La faune aussi. Pour toutes ces raisons-là, s'intéresser à l'Amazonie pour dire arrêtons de gaspiller ce trésor de l'humanité et apprenons des peuples qui y vivent comment vivre davantage dans le respect de la création, dans le respect de la nature, en nous en servant sans la détruire. Il y a un gros défi, et là, une belle leçon que nous devons recevoir de l'Amazonie en particulier.
Par rapport à un sommet écologique classique, la différence, elle va être où ?
La différence, c'est que nous regardons toutes ces questions-là dans leur dimension spirituelle. Comme le dit le patriarche Bartholomée d'une manière très belle, le regard que nous devons avoir sur la création doit être un regard spirituel. Car toute la création est un reflet de Dieu. Et lorsqu'on la regarde comme une image de Dieu, d'abord on l'admire, et puis on la respecte. Et on y voit une trace de la sagesse de Dieu et de la beauté de Dieu. Deuxièmement, une fois qu'on a ce regard spirituel, alors on a une attitude eucharistique, c'est-à-dire qu'on remercie pour cette nature. et on remercie le Créateur. C'est-à-dire qu'on se situe plus du tout comme des possédants de cette nature, mais comme les tenanciers, ce que le livre de la Genèse nous apprend déjà à être. Donc cela, cela fait une écologie qui n'est pas purement économique, qui n'est pas purement tournée vers les insectes ou les arbres, mais qui prend en mesure toute la création telle que Dieu l'a voulu, telle qu'il nous l'a confiée, et telle que nous devons la mettre à profit pour le bien-être de tous. C'est une belle différence.
Pour vous, quel sera le signe de la réussite de ce synode?
Ce sera d'abord une conversion de l'Église tout entière à décidément mettre la périphérie du monde au cœur de l'Église et à comprendre que l'évangélisation, qui ne peut être, peut se faire que dans le dialogue, doit se faire dans un dialogue constant avec tous, et d'abord avec les périphéries et dans un respect plus grand de la création.
Alors vous savez comme moi que ce qui est attendu, c'est la question des viri probati, ces hommes âgés, ces hommes mûrs, mariés, avec enfants éventuellement, qui pourraient effectivement devenir prêtres parce qu'il y a un manque de prêtres en Amazonie, pas chez vous en Guyane française, mais en Amazonie notamment brésilienne. Selon vous, c'est une question mineure du synode ou bien une vraie question?
Je vous indique tout de suite, la loi du célibat ne changera pas. Mais nous sommes suffisamment respectueux de la réalité des choses pour savoir que dans certains cas, pour appliquer l'esprit de cette loi, il faut regarder les conditions et savoir comment fait-on lorsqu'il n'y a pas de prêtre possible. Et c'est ça, cela que nous regarderons.
Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne. Alors, sur cette question de la vie des paroisses catholiques en Amazonie, sur cette question de l'accès au sacrement, avec nous dans ce studio, Elcio Ramalho, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Je rappelle que vous êtes du service brésilien de RFI et que vous revenez d'un grand reportage. Alors, vous êtes allé dans la région à Manaus, hein, c'est ça?
Exactement. Manaus, c'est la capitale de l'État des Amazonas, un des plus grands États du Brésil dans cette région amazonienne.
Qui est au centre de l'Amazonie?
C'est au nord, vraiment, c'est au centre des biomes amazoniens, comme on dit en fait. C'est vraiment au centre de cette région, de cette vaste région qui comporte bien évidemment les 9 pays, les 8 pays plus le territoire, la Guyane française. Mais c'est vraiment au centre de cette région amazonienne.
Une région très difficile à pénétrer.
Exactement, oui. Tout s'est fait essentiellement par bateau, parce qu'il y a beaucoup de fleuves, des grandes fleuves. Donc c'est très difficile, c'est une région de très difficile accès en fait.
Parlez-nous de Manaus.
En fait, c'est cette capitale, donc il y a plus de 2 millions d'habitants dans cette grande ville. Et après, il y a seulement des routes, des grandes routes qui amènent au Venezuela et une autre route qui amène à une autre région. Donc, ça se fait, les transports par les bateaux, essentiellement, même pour traverser, pour aller dans des petites villes ou un peu dans des régions un peu plus éloignées. Tout se fait par bateau, des voyages de 3 jours, 10, 12, 15 jours, en fait, pour accéder à ces régions.
Et comment cette ville de 2 millions d'habitants s'est-elle constituée?
Au début du 20e siècle, à la fin du 19e siècle, c'était la capitale des caoutchoucs. En fait, donc elle était connue. Il y a un grand théâtre qui a été inspiré de l'Opéra de Paris. Donc, à un moment donné, dans son histoire, Manaus, c'était la capitale, une capitale riche et avec une élite, une bourgeoisie très importante qui s'habillait ici avec des robes, des costumes européens et tout. Après, il y a eu effectivement cette décadence du caoutchouc et aujourd'hui, c'est une ville, une capitale avec beaucoup de pauvres et essentiellement, c'est l'agriculture, il y a un peu de commerce, mais pas beaucoup d'industrie.
Est-ce que ce sont effectivement beaucoup de paysans qui n'arrivaient pas à bien vivre et qui sont arrivés là en se disant, bon voilà, on va trouver un meilleur mode de vie. Quoi.
Exactement, Eldorado, un peu l'Eldorado, mais au fur et à mesure, cette capitale économique de la région nord du Brésil a connu un peu une difficulté économique et aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvres dans cette région.
Alors, à travers le reportage que vous allez nous faire entendre, moi j'ai relevé plusieurs thèmes. Hein. Mm-hmm. Le thème effectivement du manque de prêtres, hein, très nettement, le manque de prêtres. Donc la plupart disent manifestement, effectivement, il faut trouver une solution. La question des évangéliques. Mm-hmm. Et puis les femmes aussi, la place des femmes. Hein, les femmes qui tiennent une place très importante.
Jouent un rôle très très important.
Mais qui ne sont pas reconnues. Toujours la même question.
Hein. Exactement.
Alors, vous avez rencontré le père Ricardo, Parlez-nous de lui, Ricardo Castro.
Exactement. Il est responsable, il dirige l'Institut théologique à Manaus. Donc, c'est l'Institut d'enseignement supérieur qui forme les prêtres, en fait, pour cette région. Donc, la plupart des séminaristes viennent dans cette institution pour se former en théologie, après avoir fait des études de sociologie, de philosophie. Donc, ils se forment là-bas. Il m'a raconté, effectivement, qu'il y a des moins en moins de jeunes intéressés à devenir en fait sacerdotes. C'est un problème gravissime, surtout dans les communautés indigènes. Il n'y a pas beaucoup d'Indiens, des indigènes qui veulent entrer dans cette vie sacerdotale.
Está diminuindo cada vez mais o número de candidatos para
vida. Il est de plus en plus difficile de devenir prêtre, faire une option pour la vie sacerdotale. De nos jours, il devient beaucoup plus évident qu'un jeune voudra s'épanouir dans une dimension familiale, se marier, ce qui pèse sur le choix d'une vocation qui exige toujours que la personne vive le célibat. Cela s'oppose à la réalité des cultures locales, à d'autres visions du monde qui sont celles de peuples autochtones, mais également à un idéal humain.
Bate un peu com esse ideal humain, non?
Donc, il nous a justement dit que le célibat, c'est un problème, c'est un frein pour que ces jeunes puissent faire l'option pour cette vie sacerdotale.
C'est ça. En fait, culturellement, ils ne sont pas préparés à ce célibat.
Exactement. Et selon lui, il y a aussi la culture locale. Ce sont des indigènes, ce sont des peuples autochtones. Donc, pour eux, leur culture, voilà, est un peu confrontée à cette exigence de l'Église catholique. Donc, il y a de moins en moins. Il disait justement qu'il y a les jeunes qui veulent absolument avoir une vie maritale, être mariés, avoir des enfants. Donc, voilà, ça entre dans ces contextes. C'est qui difficulte aussi ce nombre de jeunes qui décide pour la vie religieuse catholique.
Alors, il y a aussi le père Oziel que vous avez rencontré. Qui est-il?
En fait, il habite dans une région qui s'appelle Maués. C'est très loin, c'est 16 heures de bateau de Manaus, sur le fleuve Amazon. Donc, je l'ai rencontré, il était à côté des Indiens qui sont allés à Manaus pour faire une dénonciation au ministère public de toute la déforestation dans leur communauté. Il travaille beaucoup sur le social. Mais il m'a raconté aussi la difficulté, justement, de faire l'assistance, d'être présent sur les communautés. Parce qu'en fait, il y a plusieurs problèmes. Il y a 4 prêtres pour 15 communautés indigènes, d'autres communautés autochtones. Ils ne sont pas nombreux. Et aussi, il y a la difficulté économique, parce que ça coûte cher de se déplacer dans cette région.
Je visite les communautés une fois par an, car il y a 33 communautés autochtones géographiquement éloignées les uns des autres. Il y a 150 communautés riveraines pour seulement 4 prêtres. On ne peut pas les suivre et c'est cher. Nous espérons que le synode pourra autoriser que les hommes mariés et diacres puissent être ordonnés afin de nous aider dans notre mission.
Alors, la question d'un territoire immense à couvrir, les femmes, Eltio, les femmes tiennent manifestement une très grande place dans les paroisses.
Il y a même des femmes qui disent qu'à l'intérieur de cette immense région de l'Amazonie, ce sont des femmes, en fait, qui sont présentes. Et aussi, dans les banlieues des grandes villes comme Manaus, elles sont présentes. Ce sont elles qui vont voir les communautés. Et ce sont les communautés catholiques, parfois minoritaires dans leur communauté, dans leur région, qui demandent la présence de l'Église catholique. Comme il n'y a pas beaucoup de prêtres disponibles pour assister ces communautés, donc les prêtres conseillent, même assistent ces femmes qui vont tous les samedis ou tous les dimanches faire cette célébration de la parole de Dieu. Elles ont vraiment un rôle très 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 important. Elles animent en fait ces communautés. Ce sont elles qui vont parler, discuter, animer en fait la foi catholique dans ces régions.
Alors on va écouter sœur Joaninha, c'est ça?
C'est sœur Joaninha, tout à fait. Qu'elle travaille à la frontière entre la Bolivie, le Pérou et le Brésil. Elle m'a raconté son expérience parce qu'elle fait partie d'une équipe qui s'appelle l'équipe itinérante. Ça veut dire que c'est une équipe qui se déplace. Elle s'installe pendant 2, 3, 4 jours, elle habite avec la communauté et elle travaille, elle fait l'assistance pour cette communauté catholique. Oui. Donc c'est une équipe mobile, on va dire.
Une pastorale, oui, mobile, c'est ça, nomade.
A maioria das mulheres que estão à frente dos movimentos das nossas igrejas são mulheres. Se você for olhar, padre é minoria.
Dans nos églises, les femmes sont en tête. Le prêtre est une minorité, mais comme nous avons une histoire, un machisme dans l'église et dans le monde, les femmes sont encore cantonnées dans un rôle secondaire, mais elles sont très actives. Le pape a invité de nombreuses femmes à des réunions dans l'espace synodal. Ceci est inouï et apporte un grand espoir.
Et puis il y a Creusa da Silva qui dit la même chose finalement, qui dit on n'est pas assez nombreux.
Exactement, donc elle va tous les samedis matin, elle sort de chez elle, elle marche une quinzaine de minutes, elle arrive à une communauté d'Indiens qui occupe une région dans la banlieue de Manaus. C'est une région où il y a beaucoup de problèmes avec des Indiens qui arrivent de l'intérieur de l'Amazonas, de cet état, et parfois ils sont à côté des trafiquants. Et aussi, il y a beaucoup des églises évangéliques qui s'installent dans cette région. Donc, un responsable de cette petite communauté catholique a demandé la présence de l'église. Les prêtres ne sont pas toujours disponibles, donc c'est cette dame, ce catéchiste qui s'appelle Creusa, qui va tous les samedis faire la célébration de la parole.
Notre souci en tant qu'église dans cette grande région amazonienne est que tout le monde ait accès à la parole et au pain. Nous avons le pain, mais nous ne savons pas quand le prêtre va venir, quand il sera présent dans les communautés pour célébrer l'Eucharistie et les sacrements. Et qui le fera? Les femmes. Elles sont là, elles font partie de la communauté. Nous attendons ce synode avec impatience, en particulier concernant le dossier diaconal des femmes.
Troisième volet, j'allais dire, Elcio, de votre reportage, troisième thème, c'est la question effectivement des évangéliques.
C'est un problème majeur en fait dans cette région. Oui. On voit beaucoup les avancées des églises évangéliques au Brésil d'une manière générale et en Amazonie d'une manière très particulière. Juste pour vous donner un chiffre, à Manaus, on estime 2000 églises évangéliques dans la ville et dans sa banlieue. Et à l'intérieur de l'Amazonie aussi, les églises évangéliques s'installent avec les pasteurs, avec les femmes. Donc, c'est vraiment une inquiétude pour l'église catholique qui perd ses fidèles et qui migre, en fait. Il y a une migration vers ces églises évangéliques qui sont plus présentes dans ces régions, elles sont juste à côté de leur communauté. C'est un des enjeux majeurs pour l'Église catholique. D'ailleurs, par exemple, j'ai écouté les prêtres Oziel qui me disaient justement que l'Église catholique, il y a une différence entre les églises catholiques et les églises évangéliques, surtout sur le travail du social. Il pointe un peu la différence. Il fait un peu la critique du travail de ces églises évangéliques.
C'est-à-dire que les églises évangéliques font ou ne font pas un travail social?
Les églises évangéliques ne font pas un travail social.
Alors
c'est l'église catholique qui est impliquée dans le travail social, en fait, et qui vont défendre les intérêts des indigènes, de ces peuples autochtones auprès des autorités, qui les accompagnent pour faire des dénonciations à la justice, par exemple, quand il y a des menaces de mort. Donc, il fait cette différence entre le travail de l'église catholique et le travail des églises évangéliques.
Notre préoccupation est que beaucoup de ces pasteurs sont totalement liés au gouvernement, liés à la préfecture.
Notre préoccupation est que beaucoup de ces pasteurs sont liés au gouvernement, aux municipalités. Si vous avez un problème lié à une question sociale, ils ne vont pas s'impliquer car ils sont tous liés au gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement utilise certaines églises évangéliques à leur avantage. C'est notre préoccupation. Ce n'est pas la question de l'évangélisation elle-même, qui parlait d'amour, de paix, ce n'est pas ça.
Et en fait, c'est le même discours du côté du comité indigène missionnaire avec Adriana qui vous a dit quasiment la même chose.
La même chose, exactement. Ouais. Adriana Azevedo est la coordinatrice de ces comités dédiés aux indigènes. Elle fait aussi la part des différences entre le travail de l'Église catholique et des églises évangéliques dans cette région.
A gente vê como problématique, no sentido de que essas igrejas não fazem.
Ce qui nous semble problématique, c'est que ces églises évangéliques ne réfléchissent pas aux grands problèmes sociaux qui affectent l'ensemble de l'Amazonie. Ces églises ne se sentent pas concernées par les méthodes d'exploitation minière sur des terres autochtones qui vont polluer toutes les eaux, ce qui affectera toutes les communautés. Ils ne réfléchissent pas aux conséquences sociales. Sur le fond, ils approuvent.
Une perspective muito focada só em.
Je vous remercie Eltio Ramalho pour ce grand reportage donc réalisé à Manaus et qui nous a donné beaucoup d'éclairage sur les enjeux effectivement de ce synode.
Exactement, ce sont les gens qui vivent sur place et qui demandent beaucoup de changements pour l'Église catholique et attendent beaucoup de ce synode. Geneviève.
Alors, on referme ce reportage au Brésil et à Rome avec le témoignage d'un Amérindien, Aiku Alimin, du Haut-Maroni, en Guyane française, qui illustre bien le désarroi culturel des Amérindiens d'Amazonie. Aiku Alimin est venu à Rome avec Mgr Lafont, évêque de Cayenne. Il a été élu par l'Assemblée qui a préparé le synode pour être la voix des Amérindiens et des Bushinengués, ses descendants des esclaves afro-américains venus du Suriname. Aiku Alimin est aide-soignant et se forme au diaconat permanent.
Je suis là parce que ce synode m'a beaucoup plu depuis parce que ça a été préparé depuis un an quand Monseigneur est allé voir tous les chefs coutumiers pour poser des questions. Puis il y avait l'assemblée pré-synodale à Ouala juillet dernier et du coup il y avait des votes dont j'ai été choisi par un vote, quoi. Tous les Amérindiens, et notamment les Bushinengués, voulaient qu'un évêque comme Emmanuel Lafont, qui ne va pas à Rome tout seul, voilà ce qu'ils ont dit, il faut un accompagnateur. Donc c'est-à-dire que moi, je suis là pour représenter tous les Amérindiens, du fleuve et de littoral.
Vous avez la mémoire de votre histoire familiale?
À l'âge de 9 ans, j'ai été... pour l'école, placé dans une famille d'accueil, chez un Amérindien, dont j'étais loin de mes parents, parce qu'ils n'habitaient pas en Tucumbata même. Comme j'étais tout seul, j'étais plutôt intéressé aux récits amérindiens. Et à mon époque, il y avait toujours des anciens qui se réunissaient autour du feu. L'écologie fait partie de l'éducation. Pour les Amérindiens, c'est l'humain, enfin l'homme, quoi. Quand certains disent, quand ils entendent l'écologie, c'est directement la protection de la nature totale. En fait, c'est pas ça. La protection de l'humanité, en général. Et quand je leur ai dit que la Bible fait partie de notre histoire, parce que tout ce que j'ai entendu et que je lis dans la Bible, c'est exactement pareil. Ça fait partie de notre histoire. À l'époque, les grands-parents n'avaient pas de la Bible, ils lisaient jamais. Ils apprenaient même pas à l'école.
Vous voulez dire que le respect de la création, c'est inné chez les Amérindiens.
Oui, tout à fait. C'est pour cela que l'histoire raconte que nous, les autochtones, nous sommes les gardiens de la forêt. Et on se bat pour conserver tout ce qui est bon pour l'homme, c'est-à-dire l'oxygène, la médecine traditionnelle, des nourritures. Et je suis là, puisque... l'Assemblée m'a choisi pour que je vienne à Rome et je leur avais dit que je défends plutôt la jeunesse. Parce que la jeunesse fait partie aussi de l'écologie intégrale. Voilà.
Et cette jeunesse, elle semble ne pas bien se porter. Il y a un taux de suicide très important, très élevé, semble-t-il, en Guyane, notamment.
Oui, tout à fait. Mais oui, tout le monde en parle. Et puis, ça fait 12 ans que je travaille avec des jeunes. Mais j'ai toujours pas de réponse. C'est pour cela que je demande à l'Église d'avoir des prêtres ou les diacres, mais qui savent former, éduquer les jeunes qui sont coincés. C'est vrai qu'il y a certains qui ont des parents, mais les parents, ils s'en occupent, certains non. Par exemple, à l'école, ils se sentent perdus. Les parents disent, ah non, c'est plus mon problème, c'est le problème de... l'éducation nationale maintenant. Ils savent pas où aller parce que les Amérindiens vivent dans les deux mondes, c'est-à-dire occidental et puis notre tradition, dont on voit le monde, quoi.
Donc pour vous, le prêtre peut aider des jeunes qui sont un peu dans une forme de vie culturelle, de vie familiale ?
Plutôt approfondir le catéchisme, l'éducation en général. Aussi, il faut que ça soit adapté. Il faut que tout le monde comprenne ce que c'est l'éducation.
Il y a beaucoup de sectes évangéliques en Guyane.
Ils sont partout. Ils ont l'église partout. Sur des fleuves, dans chaque petit village. Et tout ce que nous avons appris avec nos grands-parents, tout a été disparu parce qu'ils interdisent tout ça. Le chamanisme, la médecine traditionnelle, raconter des contes amérindiens, tout ça pour eux, ce sont des sataniques. Il n'y a plus de maraké. Maraké, c'est un rituel important. Ils interdisent tous. Voilà, c'est scandaleux, quoi. Et moi, je demande à l'Église catholique qu'il n'y aura pas de l'Église qui divise, pas comme eux.
Vous voulez dire une Église complètement respectueuse des habitudes culturelles ?
Oui, tout à fait. Parce que tout ce que nous avons, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas apparu par hasard. Tout a été là depuis la création de l'homme, tout simplement.
Et l'on referme cette page sur le synode, sur l'Amazonie, avec le témoignage d'Aïkou Alemine, voix amérindienne à ce synode, qui doit se tenir à Rome jusqu'au 27 octobre.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Pourquoi François est-il, depuis le début de son pontificat, la cible de la frange conservatrice et puissante de l'Église américaine ? Pourquoi, dans l'avion qui le ramenait de Madagascar, la question de l'éventualité d'un schisme lui a-t-elle été posée ? C'est le sujet de l'enquête très fouillée de Nicolas Senez, « Comment l'Amérique veut changer de pape », publié chez Bayard. Nicolas Senez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant permanent du quotidien La Croix au Vatican. Alors, est-ce que la tension est si forte entre François et les conservateurs catholiques américains qu'il fallait consacrer un livre entier à ce sujet et qu'un journaliste du New York Times pose effectivement cette question dans l'avion au pape, craignez-vous un schisme ?
C'est effectivement ce mot de schisme, quand j'ai travaillé mon livre, c'est un mot que j'ai entendu très tôt dans les couloirs du Vatican, cette vraie crainte d'un schisme, en tout cas d'une partie de l'Église américaine, parce qu'effectivement un certain nombre d'évêques soutenaient plus ou moins explicitement, des appels à la démission contre le pape François.
C'est-à-dire que, est-ce que l'on peut faire une radiographie de l'épiscopat américain ? Il y a un courant conservateur qui manifestement prend de plus en plus de vigueur, et puis aussi il y a le courant, j'allais dire, progressiste.
Alors,
libéral.
C'est pas forcément courant progressiste conservateur, j'aime pas tellement cette... Moi j'aime bien parler plutôt de rigoriste réformiste. Ceux qui ont conscience que l'Église a besoin de se réformer en profondeur pour être crédible dans son message, sans forcément toucher le fond du message. Et puis ceux qui veulent plutôt se raidir, effectivement, ce que François appelle les rigides. Et dans l'épiscopat américain, qui effectivement ne reflète pas forcément le catholicisme américain, qui est très divers, il y a quasiment aujourd'hui une majorité, encore relative, mais qui va devenir la majorité absolue de latino-américains, qui perce assez peu, en fait, dans les hautes sphères du catholicisme américain. Et il y a encore une majorité, on va dire, historique, irlando, italienne, plutôt anglo-saxonne, quand même. On a souvent parlé des WASP, hein, White Anglo-Saxon Protestants, ça serait plutôt les White Anglo-Saxon Catholiques, qui sont toute cette frange aussi de riches Américains qui ont réussi, parce que les catholiques qui étaient longtemps en marge de la société américaine s'y sont insérés, et ces catholiques ont à cœur de dire qu'ils sont de bons Américains et qu'ils partagent le rêve américain. Donc ils adhèrent aussi aux valeurs WASP, et qui peuvent parfois être en opposition, effectivement, avec la doctrine de l'Église.
Les catholiques américains qui ont eu un président catholique, John Fitzgerald Kennedy.
Et c'est un des moments clés de l'histoire du catholicisme américain, parce que justement, il y a eu cette peur pendant très longtemps de la majorité protestante aux États-Unis que, Justement, les catholiques étaient un peu suspects de recevoir leurs ordres de Rome. Ils se confessaient, les prêtres pouvaient leur donner des instructions, alors que nous, protestants, nous sommes libres. Et quand, effectivement, un catholique devient président des États-Unis, il y a cette peur que notre président ne va-t-il pas aller chercher ses instructions de l'oreille du pape.
Et c'est là où il dit, écoutez, voilà, je suis d'abord un candidat démocrate.
Voilà,
et de confession catholique.
Voilà. Et ma fonction présidentielle va primer surtout. Et il y a eu cet effort, effectivement, des catholiques américains, effectivement, de dire dans les grands débats qui traversaient la société américaine, de dire, effectivement, nous partageons le rêve américain, nous partageons l'American way of life. Et donc, sur des questions très, très clivantes aussi du catholicisme, ils partagent l'idée de enrichissez-vous, qui est à la base de la puissance économique américaine. Ils partagent aussi, tout en étant souvent des pro-vie très militants, très anti-avortement, mais par exemple, une acceptation de la peine de mort qui fait partie vraiment intégrante et culturellement du système pénal américain.
Est-ce qu'on peut donner un pourcentage des évêques conservateurs ?
Moi, ce que je remarque dans les élections qu'il y a dans l'épiscopat américain, puisque l'épiscopat américain, tous les ans, il y a l'assemblée plénière de tous les évêques, et puis ils élisent leurs représentants en différentes commissions. En 2016, c'était très clair, les candidats, on va dire, bergoliens, pro-François, faisaient un tiers des voix, et les plutôt anti-François faisaient deux tiers des voix. L'année suivante, 2017, on était à 55-45. Mais il y a eu un certain nombre d'affaires, on a tapé beaucoup sur François, et on est revenu à deux tiers, un tiers dans les élections. C'était assez systématique de voir, y compris des évêques qui avaient été très durs contre François, être élus à des postes clés de l'épiscopat. Donc je dirais qu'il y a vraiment un tiers de pro-François, peut-être un tiers d'assez durs contre François, et puis un marais au milieu, mais qui est sensible effectivement à un discours de riches catholiques conservateurs, parce que ceux-ci ont mis de l'argent dans les diocèses, en particulier après la crise des abus sexuels. Les diocèses se retrouvent en faillite.
Ils ont pris la main.
Et donc, on se tourne vers ces grandes fortunes qui financent les diocèses, mais qui, d'une certaine façon, attendent un retour sur investissement.
Oui, qui financent aussi, effectivement, j'allais dire, une certaine opinion à travers notamment la presse et à travers des groupes de pression. Alors, votre livre, Nicolas Senès, s'ouvre sur l'affaire Vigano. Donc, ce prélat italien, ancien nonce aux États-Unis, qui accuse le pape François, finalement, de couvrir les abus sexuels, et notamment ceux de l'ex-cardinal McCarrick, que François a forcé à la démission en 2018, donc qui était quand même l'archevêque de Washington. Et il demande la démission de François. Et on peut dire que c'est vraiment là où, je dirais, se focalise cette crise entre François et l'épiscope américain et l'église américaine.
C'est un acte extrêmement grave, appeler à la fois la démission du pape et de tous les autres responsables du Vatican. Alors après, les partisans de Mgr Vigano vont avoir tendance à minimiser cet appel à la démission parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'ils étaient allés très loin, donc ils vont avoir tendance à essayer de minimiser leur geste. Mais c'est quand même un acte fort. Ils ont voulu souligner. Donc,
c'est une tentative de coup d'État. Hein.
Pour moi, c'est une tentative de coup d'État, au sens que ça se fait au moment où le pape lui-même est en déplacement. Il est en voyage en Irlande à ce moment-là, avec aussi la plupart des hauts responsables du Vatican. On est un peu dans la situation d'un État, d'un pays africain, où le président est en voyage à l'étranger et une junte essaye de prendre le pouvoir en occupant la télévision et le palais présidentiel.
Alors, Mgr Vigano est italien, cela dit.
Oui, alors il est italien. Il a été aussi pendant longtemps nonce aux États-Unis, donc l'ambassadeur du pape aux États-Unis, où il a été très proche de ces milieux, de ces riches milieux conservateurs catholiques américains. Et il a aussi beaucoup fait, justement, le nonce, son principal travail, c'est aussi de nommer, en tout cas de préparer les nominations épiscopales. Et donc, il a eu beaucoup leur oreille quand il s'agit de nommer des évêques. Et il a nommé des évêques souvent proches d'eux. Et il a essayé de faire cet épiscopat à leurs mains.
Créer un épiscopat conservateur.
Conservateur, à une époque où on parlait d'une guerre culturelle, vraiment contre en particulier la politique de Barack Obama. C'était l'époque de l'Obamacare, où effectivement, Barack Obama va très loin en obligeant, par exemple, une assurance santé qui rembourse de façon obligatoire l'avortement, y compris en obligeant des institutions catholiques à payer le remboursement de l'avortement à leurs salariés ou de la contraception. Donc, prenant effectivement des positions qui vont très à l'encontre de la morale catholique. Donc, il y a eu vraiment une crispation des deux côtés et vraiment une volonté de la part de l'épiscopat américain d'une espèce de guerre. On a parlé de guerre culturelle contre ces idées de libérales américaines.
Alors, la question, Nicolas Sonnet, c'est qui est derrière Mgr Vigano? C'est un homme, effectivement, on sait qu'il est bon, aigri parce qu'il n'a pas eu ce qu'il désirait, etc. Mais ça suffit quand même pas pour vouloir faire tomber un pape.
Oui, alors, à son retour en Italie, quand il quitte son poste aux États-Unis, il se rapproche déjà aussi des milieux traditionnalistes, qui sont des milieux qui tournent beaucoup, effectivement, autour du Vatican, qui sont l'opposition un petit peu habituelle au pape François, qui s'est organisée très vite après l'élection. Mais effectivement, il y a aux États-Unis cette opposition qui reproche beaucoup de choses au pape François. Ces riches catholiques américains dont on parlait reprochent au pape justement sa condamnation des excès, en tout cas du libéralisme économique. Et donc, ça va à l'encontre de « enrichissez-vous ». Ils condamnent la peine de mort. Ça leur pose des questions difficiles. Ils discutent avec les communistes de Chine ou de Cuba. Mais la Chine, au moment où les États-Unis sont justement en pleine guerre commerciale avec la Chine, c'est compliqué pour ces Américains. Donc, il y a un moment, il faut pour eux arrêter François. Et puis, François va aussi les contrer directement parce que ces riches américains, à travers des fondations, tout un ensemble, financent énormément de choses dans le monde qui leur permettent d'être influents dans l'Église au niveau mondial.
Oui, vous parlez des chevaliers de Colomb, c'est ça?
Il y a les chevaliers de Colomb, mais c'est pas... Il y a pour moi, le Gatus, déclencheur, c'est la Papal Foundation, qui est justement un organisme de collecte de fonds aux États-Unis au nom du pape. C'est-à-dire qu'il finance des projets partout dans le monde au nom du pape. Et à l'origine, c'était le pape qui décidait en disant « moi, j'aimerais que vous financiez tel et tel projet ». Et puis, c'est eux qui choisissaient les projets pour le pape. C'est le pape qui signait en bas, mais c'était leur projet. Et François s'est aperçu que un certain nombre de ses projets allaient directement contre les réformes que lui-même engageait dans l'Église.
Par exemple
Par exemple, au moment du synode sur la famille, on avait un certain nombre de ces médias qui étaient financés attaquer directement les réformes lancées par le pape François en matière de morale familiale.
Mais par exemple, l'accès effectivement au sacrement pour les divorcés mariés, par exemple.
Voilà, donc François en a eu un peu assez et un beau jour a décidé que finalement il ne signait plus le chèque en blanc, puisque cet argent c'était pour les projets qui lui tenaient à cœur. Il a désigné un certain nombre de projets, mais qui n'entraient plus dans les desiderata, dans les vues de ces riches catholiques américains qui ont eu l'impression de se faire effectivement déposséder de leur argent. Mais pour le pape, c'était l'argent que même mettait à sa disposition. Donc, et c'est là, à mon avis, que ça a été au début de l'année dernière le déclencheur. C'est-à-dire que le pape fait cette espèce de braquage de son propre argent. Derrière, il y a un texte très fort de la Congrégation pour la doctrine de la foi et du dicastère pour le développement humain intégral, donc la doctrine sociale, qui condamne très fortement et de façon très précise les excès du capitalisme financier. Le pape décide de supprimer, là, clairement, la peine de mort du catéchisme de l'Église catholique. Les négociations avec la Chine sont en passe d'aboutir, donc pour eux, il y a urgence à l'arrêter à tout prix.
Et puis il y a aussi l'encyclique Laudato Si.
Oui, alors ça, c'était derrière déjà, oui. Mais c'est effectivement, on est déjà dans cette condamnation d'un certain style de vie qui va justement à l'encontre toujours de l'American Way of Life. Donc,
et le lobby du pétrole, ça ne lui plaît pas.
Voilà, et ça d'une certaine façon, ce pape, qui plus est latino-américain, donc les États-Unis, on regarde de haut quand même ces pauvres latinos.
Il dérange.
Il dérange et il faut l'arrêter à tout prix.
Alors, il y a des noms que vous citez, il y a beaucoup de noms dans votre enquête, Nicolas Senez, des noms qui reviennent. Alors, bien sûr, Mgr Vigano, au début, qui ouvre le livre, mais après, on a aussi un Timothy Bush. C'est ça.
Oui, alors, il fait partie, il est assez emblématique, effectivement, de ce catholicisme américain. Très offensif sur les questions morales. Il finance énormément de fondations à travers les États-Unis et qui sont assez proches justement des milieux républicains. Et il finance aussi ses médias, en particulier la télévision EWTN, qui est une véritable force de frappe, qui est vraiment le grand réseau de télévision catholique aux États-Unis et qui a une influence très forte sur les catholiques américains. Voilà, c'est quelqu'un dont j'ai remarqué qu'au fur et à mesure de mon histoire, je le retrouve un peu à tous les moments clés. Alors, est-ce qu'il est effectivement derrière, je ne sais pas, moi je n'ai pas trouvé de document qu'il aurait signé de sa main en disant « je vais abattre le pape François ». Je pense qu'il est suffisamment intelligent et prudent pour éviter ce genre de choses, de toute façon. Mais voilà, il se trouve que, pour moi, plus que désigner un coupable, j'ai voulu plutôt montrer un groupe, des gens emblématiques d'une caste qui avait mis vraiment la main sur le catholicisme américain.
Un catholicisme très fragilisé par les scandales de pédophilie et donc cette mainmise des laïcs sur l'Église. Alors, c'est ce que vous décrivez, Nicolas Sonnet.
En soi, d'ailleurs, c'est pas inintéressant que des laïcs aient pris des responsabilités dans l'Église. Par rapport à des clercs, effectivement, complètement décrédibilisés.
Et puis ils ont mis la main au portefeuille aussi pour rembourser les...
Et c'est
victimes.
Ça, donc ils attendaient un retour sur leur investissement et que l'Église aille dans leur sens. Et ça ne va pas, donc d'une certaine façon, le coup d'État, plus qu'un coup d'État militaire, c'est un peu plutôt une réunion de conseil d'administration au cours de laquelle on décide bien que le PDG, en l'occurrence le pape, ne remplissant pas les objectifs qui étaient assignés par le conseil, et du jour au lendemain débarquer. Et qu'on va en mettre un autre à sa place. Sauf qu'effectivement, l'Église, ça ne marche pas comme ça. Voilà, je pense que, s'ils ont vraiment cru possible de faire tomber le pape, je crois qu'ils se sont très, très lourdement trompés, parce que ça, c'est pas comme ça que ça marche.
La question posée dans l'avion du schisme, le pape a répondu « Non, je ne crains pas un schisme ».
Non, parce qu'il se sent suffisamment fort aussi, il sait que même dans le catholicisme américain, ces gens-là sont minoritaires, lui aussi. Et c'est ce qu'il a rappelé aux évêques américains en disant « Attention de ne pas vous concentrer uniquement sur une vision très culturelle du catholicisme, vous allez vous détourner de votre peuple. » Et il parlait là des latinos, qui, quand on regarde les chiffres, effectivement, partent en masse de l'Église américaine pour se tourner souvent vers les sans-religions. Donc là, il y a une véritable inquiétude aussi de la part du pape François de dire « Attention aux évêques américains, vous allez perdre vos forces vives. »
C'est aussi leur dire « Rapprochez-vous, ne vous éloignez pas de la doctrine sociale de l'Église. »
Évidemment, il rappelle, ce pape qui a rappelé depuis le début « Je veux une Église pauvre pour les pauvres ». Justement, ces riches catholiques américains sont aussi très influencés par la théologie de la prospérité. Il en a encore beaucoup parlé là lors de son voyage en Afrique. Donc c'est cette théologie qui veut que si on est riche et bien portant, c'est que on serait plus béni de Dieu que si on est pauvre et en mauvaise santé. C'est bien la preuve qu'on a péché et que et il y a ça aussi à travers ça, c'est-à-dire ces riches catholiques américains, eux ont réussi. Donc d'une certaine façon, ils sont bénis de Dieu. Alors que ces pauvres latinos. S'ils sont pauvres et qu'ils ont été obligés d'émigrer dans nos États-Unis, c'est bien que Dieu n'est pas de leur côté.
C'est tenu à Rome un consistoire donc qui élève au rang de cardinal un certain nombre d'évêques et d'archevêques, pas d'évêques américains cette
non,
fois-ci.
Non, ça fait même plusieurs fois qu'il n'y a pas d'évêques américains.
Ça, c'est parlant.
C'est parlant. D'une part, c'est une volonté de François de rebalancer vers ce qu'il appelle les périphéries. Je pense aussi que c'est une façon pour François, là, aussi de renforcer les Bergoliens au sein du futur conclave. C'est-à-dire que les Américains n'ayant pas réussi, ces riches Américains n'ayant pas réussi à le renverser, à le pousser à la démission, ils tablent aujourd'hui sur le prochain conclave, mettant beaucoup d'argent pour enquêter sur tous les cardinaux. Il y a des agents du FBI, d'anciens agents du FBI, avec des gros moyens à leur disposition pour enquêter sur les cardinaux et sortir des dossiers avant le conclave. Donc ça va être les boules puantes pour décrédibiliser un petit peu tous les candidats finalement susceptibles de continuer la réforme de François et avoir sinon un cardinal américain ou pro-américain, en tout cas un cardinal qui sera suffisamment faible et un pape suffisamment faible pour que la réforme lancée par François soit freinée ou arrêtée. Et donc l'objectif de François, c'est aussi que le processus de réforme qu'il a lancé, et dont il sait que lui-même ne verra pas la fin, ne soit pas entravé. Et donc, effectivement, il place les gens de la réforme dans le futur conclave qui élira son successeur.
Dans son dispositif. Je vous remercie, Nicolas Sonnet. Je rappelle donc le titre de votre livre, « Comment l'Amérique veut changer de pape » et c'est publié chez Bayard. Merci. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Sophie Janin vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.